Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 1er août 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Ebola en République démocratique du Congo, décès d'un deuxième malade à Goma et un troisième cas détecté. Inquiétude des populations face à une épidémie qui défie les professionnels de santé depuis un an.
Au Sénégal, l'ancien journaliste Adama Gaye a été inculpé et écroué pour offense au chef de l'État.
Washington a adopté des sanctions contre le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, dans le cadre de sa campagne de pression maximale.
À Détroit, le favori de la primaire démocrate, Joe Biden, a été attaqué de toutes parts hier soir lors d'un débat avec ses rivaux.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, 15 personnes, dont 7 en provenance de Goma, ont été mises en quarantaine dans une localité riveraine du sud Kivu. Cela fait un an, jour pour jour, que l'épidémie a été déclarée et un deuxième malade est décédé à Goma, chef-lieu du nord Kivu, augmentant les craintes dans le sud Kivu. Le point avec Ekiabadou.
15 personnes, dont 7 venant de Goma, ont été mises en quarantaine à Birava, au nord du lac Kivu, à environ 30 km au nord de Bukavu. Hier, 5 bateaux en provenance de Goma ont été immobilisés dans le port de Bukavu. Chaque jour, plusieurs rotations de bateaux, certains transportant jusqu'à 500 passagers ainsi que des marchandises, relient Goma et Bukavu. C'est la première fois que des cas suspects ont été recensés dans le sud Kivu. Le deuxième malade signalé à Goma est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué le docteur Haruna Abedi, coordonnateur de la riposte contre Ebola dans la province du nord Kivu. La victime, âgée de 46 ans et père de 10 enfants, s'était rendue en Ituri où il avait contracté le virus. L'apparition de ce cas à Goma, ville jumelle de Gisenyi au Rwanda, renforce la psychose et la menace des propagations de l'épidémie responsable de 1803 morts depuis un an.
Et le docteur Haruna Abedi a également annoncé qu'un troisième cas avait été détecté mercredi à Goma. Ce troisième cas confirmé est la fillette âgée d'une année de ce père de 10 enfants atteint d'Ebola et décédé au CTE de Kiziba, a déclaré à l'AFP un responsable de la riposte qui a souhaité garder l'anonymat. Nous reviendrons en seconde partie de cette édition sur la situation dans les provinces nord et sud du Kivu avec nos correspondants sur place.
RDC toujours, les magistrats de Kinshasa ont observé mercredi un arrêt de travail pour obtenir de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire susceptible de les mettre à l'abri de la corruption, a constaté un journaliste de l'AFP. Un mémorandum a été déposé auprès du conseiller juridique du président Félix Tshisekedi par une centaine de magistrats. À Mandaka, dans le nord-ouest, le mot d'ordre de grève a été observé, mais à Matadi, dans le sud-ouest, Lubumbashi, dans le sud-est et à Uvira, dans l'est, toutes les activités judiciaires se sont déroulées normalement, ont indiqué des correspondants de l'AFP.
Au Sénégal, l'ancien journaliste Adama Gaye a été inculpé hier d'offense au chef de l'État. Sur les réseaux sociaux, il avait tenu des propos jugés insultants et qui visaient Macky Sall, le président sénégalais. Le point avec Bagassi Koura.
Adama Gaye est également inculpé de manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique. Selon son avocat, il a passé sa première nuit à la prison de Rebus à Dakar. Il était en garde à vue depuis son interpellation lundi par la division des investigations criminelles de la police judiciaire. Monsieur Gaye a été journaliste dans plusieurs médias. Il publiait sur sa page Facebook depuis plusieurs semaines des messages crus, voire obscènes, mettant en cause la vie privée du président Macky Sall et de son entourage. Des hommes de médias sénégalais ont pris leur distance avec ces méthodes. Dans un bref entretien téléphonique à l'AFP, Adama Gaye dit se considérer comme un prisonnier d'opinion. Son arrestation a été dénoncée par la section sénégalaise d'Amnesty International. Sidi Gassama, responsable de cette ONG, a appelé à sa libération.
Au Libéria, des heurts ont éclaté à Monrovia, la capitale, lors d'une manifestation contre le président George Weah, puis après l'annonce de la victoire probable d'un candidat de l'opposition dans une élection sénatoriale partielle, selon l'AFP. La manifestation était organisée par un collectif composé de dizaines d'associations de la société civile, y compris des pans de la jeunesse ayant porté l'ex-star du football au pouvoir en janvier 2018, réunis au sein d'un conseil des patriotes et soutenu par des partis de l'opposition. Le conseil réclame depuis des mois des mesures pour améliorer les conditions de vie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le favori de la primaire démocrate, Joe Biden, a essuyé de vives attaques mercredi lors du second débat avec 9 de ses rivaux qui ont passé au crible ses positions passées sur l'immigration ou la politique pénale depuis son engagement public il y a près de 50 ans aux États-Unis. Compte rendu de Jean-Roger Bion.
L'ancien vice-président de Barack Obama s'est montré cette fois plus incisif face à l'assaut en règle de ses concurrents. C'est même lui qui a attaqué en premier une de ses principales rivales, Kamala Harris, sur ses propositions en matière de couverture maladie. Soyons francs, vous ne pourrez pas battre Donald Trump avec un double discours sur ce plan, lui a-t-il lancé. La sénatrice noire lui a rendu l'appareil en revenant sur le sujet qui avait été au cœur de leur premier affrontement, à savoir ses relations passées avec des ségrégationnistes. Mais elle n'est pas non plus sortie indemne du débat, les pics ayant fusé dans toutes les directions. La députée Tulsi Gabbard lui a reproché d'avoir, en tant que procureur général de Californie, fait emprisonner 1500 personnes pour des délits liés à la marijuana et d'avoir conservé un système de liberté sous caution injuste pour les plus pauvres. Pour en revenir à Joe Biden, le sénateur noir Cory Booker a reproché aux vétérans de la politique américaine d'avoir mis son nom sur toutes les lois pénales depuis les années 70, responsable de l'incarcération de millions d'Américains. Joe Biden a également été étrié pour son refus de dépénaliser les entrées clandestines aux États-Unis, à la frontière mexicaine en particulier. Le prochain débat est prévu à la mi-septembre avec des règles plus strictes de participation. Seule une dizaine de candidats devraient se qualifier. Le premier vote de la primaire démocrate aura lieu dans le petit État de l'Iowa. Ce sera le 3 février 2020.
Les États-Unis ont pris des sanctions contre le chef de la diplomatie iranienne, Mohammed Javad Zarif, accentuant encore leur campagne de pression maximale sur le régime iranien qu'ils accusent de déstabiliser le Moyen-Orient. Zarif est le visage du régime qui répand à l'étranger la propagande et les campagnes de désinformation favorables au programme nucléaire de Téhéran, à ses missiles balistiques et à ses réseaux terroristes, a déclaré à l'AFP un haut responsable américain qui a requis l'anonymat. Fin juin, Washington avait adopté des sanctions dures contre le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Le président Donald Trump avait prévenu que M. Zarif subirait bientôt le même sort. Pour ce dernier, Zarif, Washington tente de réduire l'Iran au silence sur la scène internationale.
Le Sénat américain a approuvé le choix du président Donald Trump pour le poste de représentante permanente des États-Unis aux Nations Unies en remplacement de Nikki Haley, démissionnaire en décembre dernier. La nomination de Kelly Craft, jusqu'ici ambassadrice au Canada et une donatrice de longue date du Parti républicain, a été entérinée par 56 sénateurs contre 34, avec le soutien de tous les républicains et de 5 démocrates.
Au Brésil, 4 détenus ayant pris part à l'un des pires massacres de l'histoire des prisons du pays ont été retrouvés morts par asphyxie hier dans un camion qui les amenait vers un autre établissement portant à 62 le nombre total de décès. Précision d'Irénée Herman Ungo.
Ces hommes faisaient partie des 46 prisonniers qui ont commencé à être transférés mardi au lendemain de la rixe entre factions rivales de narcotrafiquants qui avaient fait 58 morts, dont 16 sauvagement décapités. Ce bain de sang s'est produit dans une prison insalubre et surpeuplée d'Altamira, localité située au cœur de la forêt amazonienne. Mardi soir, 30 détenus impliqués dans les affrontements ont été menottés et répartis dans 4 compartiments à l'intérieur d'un camion qui devait les amener à Belém, la capitale du Pará, à plus de 800 km. Les gardiens ont découvert les 4 cadavres mercredi à l'aube. Les agents ont retrouvé 4 détenus morts par asphyxie dans 2 des compartiments des fourgons, a expliqué le secrétariat à la sécurité de l'État du Pará dans un communiqué.
C'est la fin de ce journal sur VOA Afrique. Restez à l'écoute pour la suite du Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La pollution au mercure des eaux par des mines chinoises en Centrafrique vient d'être confirmée par un rapport d'analyse. Les experts du laboratoire Lavoisier de Bangui ont relevé une concentration de mercure 4 à 28 fois supérieure à sa valeur admissible dans les eaux de la rivière Ouham. Or, ce mercure n'était pas détecté en amont du site d'exploitation minière, ce qui signifie que cette pollution en métaux lourds très toxiques proviendrait des sites d'exploitation. Védin Tarusso-Siz affirme avoir ouvert une procédure d'arbitrage à la suite d'une tentative du gouvernement zambien de liquider KCM, Konkola Copper Mines, dans laquelle Vedeta détient une participation majoritaire. Depuis le mois de mai, le gouvernement zambien a nommé un liquidateur pour gérer KCM, détenu à 20% par la Société minière d'État zambienne et à 80% par Vedeta. La Zambie accuse KCM d'avoir enfreint les termes de sa licence. Terminons avec la société anglo-suisse Glencore qui déclare avoir perdu 350 millions de dollars au premier semestre de cette année après la réduction de 50% du prix du cobalt, même si sa production a connu une hausse de 28%. La production du cuivre était inférieure de 5% à celle de l'an dernier. Celle du zinc a augmenté de 8%, celle du charbon de 10% et le nickel de 11%. La société a par ailleurs entamé une refonte de ses activités sous-performantes en Afrique, notamment avec des révisions de sa production en RDC, où Glencore a été confrontée à une série de problèmes, dont la mort de mineurs artisanaux qui envahissaient sa concession.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
C'est aujourd'hui que commence la mission de la secrétaire générale de la FIFA à la CAF.
Oui, Fatma Samoura va évaluer l'instance africaine de football en pleine tourmente. La dirigeante sénégalaise a été nommée déléguée générale pour l'Afrique à partir de ce 1er août pendant 6 mois renouvelables pour superviser la CAF secouée par des polémiques et scandales ces derniers mois. Hier, le TAS a annulé la décision de l'instance africaine de faire rejouer la finale de la Ligue africaine des champions entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca. Le tribunal arbitral du sport a estimé que le comité exécutif de la CAF n'était pas compétent pour prendre une telle décision. Le TAS a conclu qu'il appartient désormais aux organes compétents de la CAF d'examiner les incidents survenus lors de la finale polémique et de décider si le match retour doit être rejoué ou non. L'Espérance avait été sacrée championne après que son adversaire marocain a quitté la pelouse pendant le match retour suite à un litige sur un but refusé par l'arbitre alors que l'assistance vidéo à l'arbitrage était en panne.
Sadio Mané nominé par la FIFA pour le trophée The Best.
Sans surprise, l'ailier du Sénégal et de Liverpool fait partie de la liste des 10 footballeurs qui se sont brillamment illustrés durant cette année 2019. Vainqueur de la Ligue des Champions, co-meilleur buteur du championnat anglais, vice-champion de la Premier League et de la CAN, Sadio Mané a vécu la meilleure saison de sa carrière. Le numéro 10 des Lions a été auteur de 26 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues, sous le maillot des Reds et de 4 buts et 1 passe décisive en 11 matchs avec le Sénégal. Moins en vue cette saison, l'Égyptien Mohamed Salah figure également sur cette liste aux côtés de Matthijs de Ligt de l'Ajax parti à la Juve, de Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk de Liverpool, Frankie de Jong de l'Ajax parti au Barça, Lionel Messi, Harry Kane de Tottenham, Kylian Mbappé du PSG et Eden Hazard de Chelsea acheté par le Real Madrid. Chez les entraîneurs, le sélectionneur de l'Algérie Jamel Belmadi, vainqueur de la CAN 2019, a été nominé pour le trophée de meilleur entraîneur d'équipe masculine en compagnie de 9 autres collègues. La cérémonie de récompense aura lieu à Milan le 23 septembre prochain.
Le mondial féminin se disputera avec 32 équipes en 2023.
Ainsi en a décidé le conseil de la FIFA qui a approuvé la proposition visant à faire passer le mondial féminin de 24 à 32 équipes dès sa prochaine édition. Le succès retentissant de la Coupe du Monde de cette année a clairement montré que le moment était venu de poursuivre sur cette lancée et de prendre des mesures concrètes pour favoriser la croissance du football féminin, a déclaré Gianni Infantino, président de la FIFA. L'édition France 2019 a été remportée par les États-Unis. La FIFA n'a pas encore choisi l'organisateur de la Coupe du Monde 2023. 9 candidats dans l'Afrique du Sud se sont déclarés.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Un deuxième malade d'Ebola est décédé à Goma, grande ville de l'est de la République démocratique du Congo, et un troisième patient y a été testé positif au virus mercredi, suscitant l'inquiétude des populations de la région. Dans la province voisine du Sud Kivu, 15 personnes ont été mises en quarantaine dans une localité riveraine du lac Kivu. C'est la première fois que des cas suspects d'Ebola ont été recensés dans cette province. Le deuxième malade décédé mercredi à Goma est un homme de 46 ans revenu d'une zone minière de la province voisine de l'Ituri. Dans son quartier, près du chef-lieu du Nord Kivu, la vaccination a commencé, mais la crainte des habitants est évidente. Notre correspondant sur place, Charlie Kasereka.
Le deuxième cas détecté était un habitant du quartier Bugamba, dans la périphérie de Goma. Il était parti depuis plusieurs mois à Ituri, d'où il a contracté le virus. Revenu dans le chef-lieu du Nord Kivu depuis le début de ces mois, il a manifesté les premiers signes de fièvre Ebola le 22 juillet. Juste après ses premières malaises, il s'est précipité au centre de santé près de chez lui. L'infirmier qui a vu le signe a alerté l'équipe de la riposte qui est venue récupérer les malades et l'amener au centre de traitement construit pour la circonstance. L'homme âgé de 46 ans, père de 10 enfants, est décédé la nuit dernière. Jean-Jacques Mouyembe, expert congolais et secrétaire multisectoriel de la lutte contre Ebola en RDC, explique ici.
Il s'est rendu à l'hôpital très tardivement. Donc il a fait plus de 8 jours à la maison. Il vient de décéder maintenant. Mon rôle ici, c'est vraiment de dire que dans 3 ou 4 mois, nous allons maîtriser cette épidémie.
Une campagne de vaccination a commencé, ainsi que la décontamination de l'endroit par les équipes de la riposte. Malgré tout, la crainte des habitants est perceptible dans un quartier où l'eau courante est inexistante. Bati Alain, habitant du quartier Bugamba.
Nous avions eu peur d'abord le matin parce que on a vu le véhicule, les policiers derrière les véhicules. On ne s'attendait pas de quoi.
Vous êtes fait déjà vacciner?
Bon, moi je suis sur la liste, je sais que demain ou après-demain je vais y passer parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits là-bas. Jusqu'à présent, j'ai trouvé cette occasion parce que ça se trouve devant ma porte.
Ce deuxième cas intervient 15 jours après celui d'un pasteur originaire du Sud Kivu, décédé lui aussi au lendemain de la confirmation du premier cas Ebola à Goma. Dans un communiqué rendu public ce mardi 30 juillet, le professeur Mouyembe indique que le cas détecté n'a aucun lien avec le premier qui venait de Butembo, alors que le deuxième, lui, est venu de Bunia. Selon les mêmes documents, le malade est arrivé à Goma depuis le 13 juillet en provenance d'une zone minière dans la province de l'Ituri, sans signe de maladie et a développé les premiers signes le 22 juillet ici à Goma. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Et au Sud Kivu, la situation était très tendue hier au port de Bukavu. Mercredi avant midi, 5 bateaux en provenance de Goma ont été immobilisés dans le port de Bukavu, de l'autre côté du lac Kivu, provoquant l'inquiétude dans cette autre ville de l'est de la RDC. Ces bateaux ont connu un contrôle systématique des passagers suite à une alerte la veille selon laquelle une passagère se serait rendue à Bukavu après un contact avec le cas confirmé Ebola qui est décédé à Goma. La personne a été retrouvée, mais plutôt dans le village de Birava, et mise en quarantaine avec 14 autres personnes. Précision de notre correspondant à Bukavu, Ernest Muhero.
Déjà tôt le matin, l'ambiance est inhabituelle au port. Aucun bateau n'est autorisé à accoster sur décision du gouvernement provincial, alerté qu'il y aurait un suspect dans un bateau. Quelques habitants de Bukavu, y compris des acteurs des mouvements citoyens, les autorités provinciales et acteurs engagés dans la riposte contre Ebola sont sur place. C'est le début d'un long contrôle, passager après passager. Rémi Kassindi du collectif Amka Congo.
Il y a eu vraiment panique parce que Ebola c'est une maladie qui fait peur. Et nous on estime qu'il faut développer des vrais mécanismes de prévention. Mettre sur pied une équipe mobile, une équipe médicalisée qui va être mouvante sur les lacs et qui va aider à prévenir.
Les présidents du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, Patient Bachombe, trouvent inacceptable que toute une province soit mise en déroute dans l'identification d'un voyageur et qu'on tâtonne bateau après bateau.
Comment on ne peut pas savoir sur quel manifeste se trouve le nom de la femme? C'est quand même inimaginable. Il y a une légèreté que nous ne pouvons pas tolérer, condamnable. Jusque maintenant, pendant que nous parlons, il y a encore des bateaux bateaux qui flottent encore sur le lac parce qu'ils ne peuvent pas accoster, étant donné qu'on ne sait pas la femme s'est cachée où.
La file est longue, les formalités aussi. Il s'agit bien d'une alerte en rapport avec Ebola. Certains voyageurs, l'air abattu, s'expriment en étant encore dans les bateaux.
Je devrais être ici à 5h du matin pour être à la collation des grades à 9h. Maintenant, il est pratiquement midi. Nous sommes en train de tourner sur le lac. Bon, moi, c'est pas grave, mais il y avait des femmes et des enfants fatigués, sans avoir dormi, sans avoir mangé. C'est pourquoi nous disons qu'il faut une promptitude dans la réaction. Moi, j'ai eu l'information vers 22h. C'est plutôt quand on a raisonné le bateau que les gens ont pris l'information au sérieux. Mais en même temps, c'est notre pays, on ne va pas le fuir. Donc, nous devons nous protéger et protéger nos semblables.
La longue fouille est infructueuse au port de Bukavu, mais des indications permettent de savoir que la dame recherchée serait descendue pendant une escale dans le village de Birava. Infatigable, des équipes de la riposte se rendent dans ces villages à une trentaine de kilomètres. La personne est identifiée avec 6 enfants avec lesquels elle voyageait. Ils sont tous mis en quarantaine, avec 7 autres personnes dans la famille d'arrivée, selon des sources médicales. La police y est déployée pour éviter tout contact. Le gouverneur du Sud Kivu, Teungwa Bidje, rassure que le cas est sous contrôle.
Ce soir, je vous dis que nous avons réussi à trouver la personne. C'est une dame. Directement, les équipes ont examiné la personne. Mais nous avons pris les précautions, que ce soit elle-même et que les personnes qu'elle a contactées à la maison, chez elle, seront vaccinées demain. Donc, il n'y a pas de risque.
C'est donc clair, aucun cas Ebola est déjà effectif au Sud Kivu, mais d'aucuns plaident pour le renforcement des mécanismes et des préventions et des ripostes contre cette maladie dangereuse. Ernest Mouiro Bukavu pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, plus de 6 mois après son élection, le président congolais Félix Tshisekedi devrait bientôt pouvoir former son gouvernement. Les plateformes FCC de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila et Cash de son successeur se sont entendues pour gouverner ensemble. L'équipe du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba devrait compter 65 ministères, dont 42 pour le FCC, majoritaire au Parlement, et 23 pour Cash. Comment se fera cette gouvernance FCC Cash? Quels sont les obstacles et défis? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Au Mali, à Sévaré, région de Mopti, lancement de la 3e édition de la Bourse des Moutons de Tabaski ou fête du sacrifice de l'Aïd al-Adha. Reportage de notre correspondant Kassim Traoré.
C'est dans la vaste cour de l'Office de développement de l'élevage de Mopti, communément appelé ODM, situé en face de l'hôpital Somino Dolo, que se déroule la 3e édition de la Bourse des Moutons, dénommée Bomotaps.
Il me plaît de mentionner que le programme fait partie de l'initiative Fils de Futur, qui s'agit de nourrir l'avenir, financé par le gouvernement américain à travers l'USAID. LKG travaille sur le terrain avec 529 organisations de producteurs et productrices réparties dans les cercles de Mopti, Bandiagara, Bankas, Djenné, Diré, Gundam, Niafouké, avec 28 communes donc de la région de Mopti, dont 266 villages, et 66 villages de 6 communes de la région de Tombouctou.
La Bourse des Moutons est basée sur le programme de l'élevage pour la croissance économique, avec des producteurs encadrés. Amadi Kane Diallo, directeur de la production animale de Mopti.
Le programme L4G est aujourd'hui l'un de nos projets phares par le dynamisme et la persévérance de toute son équipe, ayant la charge du bureau de Sévaré, qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Nous avions également pris bonne note de la fermeture prochaine du projet dans moins d'un mois et nous vous donnons l'assurance de pérenniser ses activités.
Malgré le contexte difficile, le projet, selon ses initiateurs, a atteint des résultats positifs.
Il y a des plateformes de femmes, des plateformes de jeunes, des réseaux d'embaucheurs que nous avons consolidés. Il y a l'équipement également de 5 marchés à bétail que nous avons réalisés dans le cercle de Koro et Bankas avec des foins d'eau modernes et équipés de pompes solaires. Il y a l'initiation de cette bourse de moutons au niveau des producteurs L4G avec vente de plus de 6,5 milliards de francs CFA et l'augmentation de revenus et de la sécurité alimentaire des ménages et l'autonomisation des femmes, une bonne maîtrise et appropriation de technologies et bonnes pratiques transférées à l'échelle des zones de travail.
La Bourse des Moutons en cette veille de fête de Tabaski est une bonne idée. Siaka Senou, conseiller communal à la mairie de Mopti.
Pour nous, collectivité, l'organisation de la Bourse des Moutons est à encourager et à soutenir car nous sommes dans une région où les pouvoirs d'achat sont irréguliers. Chacun trouvera son compte dans cette bourse et je souhaite ardemment que les démunis aussi bien que les nantis, que chacun trouve son compte.
C'est grâce au gouvernement américain, à travers le projet Feed the Future, que L4G organise cette bourse. Ousmane Diallo, conseiller aux affaires économiques au gouvernorat de Mopti.
Nous tenons particulièrement ici à exprimer toute notre gratitude à l'USAID, au gouvernement et au peuple américain qui ont accepté de débourser les fonds nécessaires pour que L4G voit le jour au Mali dans le cadre du programme Feed for Future. L'impact de L4G est essentiellement positif sur les bénéficiaires de la région de Mopti que nous exhortons. Le gouvernement des États-Unis, à travers l'USAID, a renouvelé une telle initiative afin que non seulement les acquis soient pérennisés, mais également que les acteurs et les autres cercles soient concernés par cette opération.
La troisième édition de la Bourse des moutons de Sévaré, c'est du 31 juillet au 4 août prochain, avec des moutons à la portée de toutes les bourses. Mopti, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Chaque année, et selon Plan International, plus de 12 millions de filles sont mariées de force avant l'âge de 18 ans. Et dans les pays en développement, c'est le cas pour une fille sur cinq. Ces filles voient leur droit à l'enfance et à l'éducation volés et leurs perspectives d'avenir et d'évolution limitées. Ainsi, des générations successives de jeunes filles sont maintenues dans des conditions de pauvreté et d'impuissance par les mariages forcés et précoces. À travers le monde, 650 millions de femmes mariées l'ont été pendant leur enfance. Nous ouvrons notre série sur ce sujet avec le cas de Mwanamisi de la Tanzanie.
Un soir, ma mère m'a dit « Quelqu'un cherche une domestique ». Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée. Plus tard, maman m'a dit que quelqu'un avait proposé de m'épouser. Elle a dit que l'homme était une bonne personne et qu'il était jeune. Mais j'ai dit non, j'ai pleuré. Ma grand-mère m'a dit qu'elle avait essayé de dissuader ma mère de me marier, parce qu'à 14 ans, j'étais encore trop jeune. Ma grand-mère a dit que je devrais aller dans un pensionnat pour études religieuses. Maman s'est fâchée contre ma grand-mère parce qu'elle me soutenait dans mon désir de ne pas me marier. Il n'y avait pas de doute, ma mère était prête à me donner en mariage. J'ai pleuré pendant des jours. Je suis allée à une cérémonie de remise de diplôme dans une école primaire où quelqu'un a annoncé que n'importe quelle fille en situation de mariage forcé devrait contacter la police. J'ai écrit le numéro. Grand-mère m'a donné un téléphone portable pour communiquer avec le futur marié. J'ai enregistré ses numéros de contact. J'ai appelé la police qui a demandé le nom du marié et la date du mariage. Ma mère ne voulait pas me donner la date du mariage ou le nom de l'époux. Elle m'a dit que ça ne me regardait pas. La nuit avant le mariage, un responsable local est venu chez nous pour me demander si je voulais me marier. Quand j'ai dit non, il a interrompu la cérémonie. J'ai commencé à étudier le textile dans un centre. Ensuite, une assistante sociale m'a transférée au centre Kiwo Hede de Dar es Salaam. Mon rêve est de devenir une grande créatrice de mode.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h/24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.